RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le président Joko Widodo, il y a des obstacles de start-up indonésiennes à l'expansion dans les pays voisins. L'ambassade d'Indonésie à Islamabad et Kadin Rawalpindi renforcent la coopération. Le ministre du Commerce est optimiste que l'objectif d'exportation de pétrole et de gaz est dépassé. Youssouf Kalla a visité des abris temporaires réfugiés dans Sigi et Petobo. Le gouvernement a expliqué les trois principaux avantages des processus commerciaux liés au pétrole et au gaz. Soutenir le film national, l'Indonésie fixe des objectifs d'avoir 3000 écrans. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a reconnu que les startups indonésiennes ont la possibilité d'entrer dans un pays voisin, mais qu'il existait des obstacles à pénétrer les marchés des pays voisins. Le président a déclaré dimanche dans la ville de Tangerang, Banten, que l'industrie créative en Indonésie se développait rapidement. Aujourd'hui, l'Indonésie a 4 licornes de start-up qui font partie des 7 plus grands start-up d'Asie du Sud-Est. Les 4 licornes, à savoir Traveloka, Gojek, Bukalapak et Tokopedia, appartiennent à des jeunes. Licorne est un terme pour les start-up d'une valeur plus d'un milliard de dollars américains. Le président a déclaré que Gojek était déjà entré au Vietnam et entrerait bientôt à Singapour et aux Philippines. L'ambassade d'Indonésie d'Islamabad renforce sa coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi au Pakistan. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi, Malik Sahid Salem, a déclaré dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta samedi qu'il appréciait le soutien de l'ambassade indonésienne pour sa participation au stand de l'exposition internationale Rawal Expo 2018 et a fait venir deux sociétés indonésiennes. L'ambassadeur d'Indonésie à Islamabad, M. Iwan Suyudi Amri, s'est rendu au bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi à la suite d'une invitation du nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi. L'ambassadeur Iwan Amri a déclaré qu'il félicitait Malik Sahid en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi pour la période 2018-2019 et le succès de la mise en œuvre des élections générales au Pakistan. Malik Sahid Salem a salué la visite de l'ambassadeur d'Indonésie. Selon lui, et les langues des représentants principaux qui ont activement dialogué avec les entrepreneurs de Rawalpindi et ses environs. Le ministre indonésien du Commerce, M. Enggar Tias Tolu Kita, est optimiste que l'objectif d'exportation d'eau pétrolière et gazière peut être atteint même et dépassé de 11%. Cette conviction est basée sur la valeur transactionnelle enregistrée lors de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2018 à Tangerang, Banten, tenue du 24 au 28 octobre. La plus grande exposition d'Indonésie a enregistré une valeur transactionnelle de 8,49 milliards de dollars. Le ministre Enggar Tias Tolu Kita, cité par Kompas.com dans sa déclaration samedi, a déclaré que cette valeur avait été multipliée par 5 par rapport à l'objectif fixé précédemment, à savoir 1,5 milliard de dollars américains. Cet accomplissement renforce encore l'optimisme de la réalisation des objectifs d'exportation d'eau pétrolière et gazière de 11% ou équivalent de 169,82 milliards de dollars américains. Il a déclaré que les transactions qui ont eu lieu lors de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2018 comprenaient des transactions de commerce, de tourisme et d'investissement. Les transactions commerciales consistent en transactions de produits sous forme de biens et de services. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla s'est rendu dimanche dans la zone d'hébergement temporaire pour les victimes de tremblements de terre et la liquéfaction dans les villages Mpano, le district de Biromaru, région de Peti et à Petobo, dans la ville de Palu, en province de Sulawesi centrale. À cette occasion, Yusuf Kalla a promis aux réfugiés d'en décembre, les habitants pourraient déplacer des tentes de réfugiés à des abris temporaires. Le vice-président a ajouté, comme rapporte par Antara, que le gouvernement accompagnerait et aiderait les sinistrés en fournissant des fonds pour la construction de maisons. Le vice-ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, M. Archandra Tahar, a déclaré que le processus d'affaires de pétrole et de gaz étant appliqué par le gouvernement contient au moins trois vertus menant à la justice. Cela a été déclaré par Archandra dans les informations officielles du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales à Jakarta dimanche. Les trois piliers sont premièrement faciliter les investisseurs qui sont des alliés par des contrats de travail au gouvernement. Deuxièmement, expliquer aux investisseurs sur des politiques qui sont appliquées par le gouvernement. Troisièmement, le gouvernement demande des éclaircissements sur l'investissement qui sera réalisé. Ces piliers sont également appliqués à la politique adoptée concernant l'actionnariat de Freeport, 51%, et à la soumission de la gestion du bloc Rokan à Pertamina en 2021. Le gouvernement souhaite que toutes les politiques puissent offrir plus de valeur, l'entreprise concurrentielle et bénéficie à toutes les parties. Triawan Munaf, directeur de l'Agence indonésienne pour l'économie créative, a déclaré qu'afin de populariser de plus en plus le cinéma national auprès des spectateurs nationaux, soutenons avec l'ajout 3000 unités d'écran de cinéma pour les trois prochaines années. Selon lui, l'ajout de milliers d'écrans est priorisé dans les zones isolées n'ayant pas accès au cinéma. Il a déclaré que la production cinématographique nationale continuait d'augmenter. Cette année, on estime à 200 films. Triawan a ajouté que le film réalisé par les cinéastes indonésiens tourné dans des cinémas indonésiens pouvait concurrencer avec le film étranger et que le pourcentage de films nationaux projetés dans les cinémas indonésiens atteignant 40%. D'autre part, Triawan a expliqué qu'actuellement sa partie avec la commission de film régional et le gouvernement local discute le don des incitations pour les cinéastes qui font la production cinématographique dans la région. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'Indonésie vers la révolution industrielle 4.0 ». Le gouvernement de la République d'Indonésie, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ou UNDIO, a organisé la première conférence régionale sur le développement industriel à Bali du 8 au 9 novembre 2018. Cette activité a pour objectif de créer la révolution industrielle 4.0 dans les pays en développement de la région d'Asie-Pacifique. L'industrie de la quatrième génération ou industrie 4.0 est actuellement souvent affirmée par le président Joko Widodo. À plusieurs occasions, il a toujours mentionné l'industrie 4.0. En fait, le président a inauguré également d'une feuille de route intitulée « Making Indonesia 4.0 » qui orientera à l'avenir le mouvement national de l'industrie afin de faire de l'Indonésie comme pays développé. La feuille de route « Making Indonesia 4.0 » a été définie par le président Joko Widodo comme l'un des programmes nationaux de l'Indonésie. Le coordinateur du programme est le ministère de l'Industrie. En réalité, qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0? Selon le directeur général par intérim de la résilience et du développement de l'accès industriel international au ministère de l'Industrie, M. Ngakan Timur Antara a déclaré que l'industrie 4.0 était une tendance à la transformation des processus industriels entraînés par la rapidité du développement technologique, notamment dans le processus d'automatisation et d'échange de données. La mise en œuvre de la révolution industrielle de quatrième génération implique plusieurs aspects essentiels de la transformation des technologies les plus récentes. La révolution industrielle 4.0 reposant sur l'Internet facilite certainement les choses pour les humains et aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle a également changé l'économie, le travail et même la société. Cette révolution instille une technologie intelligente et connectée non seulement au sein de l'entreprise, mais également à la vie quotidienne. Comme les pièces qui ont deux côtés différents, l'industrie 4.0 apporte non seulement des avantages, mais aussi de nouveaux défis, notamment pour la main d'œuvre, l'autonomisation ou l'utilisation des robots dans le processus de fabrication permet une réduction du travail, même si ce nombre n'est pas significatif, pour faire face aux changements apportés par l'industrie 4.0. L'une d'entre elles est améliorer les compétences des ressources humaines à travers un programme de lien entre l'éducation et l'industrie. Cette politique d'association est mise en œuvre pour garantir que les compétences des ressources humaines indonésiennes correspondent aux besoins de l'industrie fondée sur la technologie numérique ainsi que la révolution industrielle 4.0. Espérons que grâce à la feuille de route Making Indonesia 4.0 lancée par le président Joko Widodo et des efforts visant à améliorer la compétence des ressources humaines à travers le programme de rapprochement entre l'éducation et l'industrie, l'Indonésie sera prête à faire face à la révolution industrielle 4.0 et à croître la productivité et compétitivité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 12 novembre est la Journée nationale de la santé. La Journée nationale de la santé a été déclenchée à cause du paludisme. Vers les années 1960, en Indonésie, une épidémie de moustiques du paludisme a attaqué les Indonésiens. Par conséquent, des centaines, même des milliers d'Indonésiens sont des victimes. Et vers 1963, le paludisme a été pulvérisé et éliminé à l'aide de poisons dichlorodipénil trichloroéthane. Le 12 novembre 1964, la première pulvérisation de moustiques à Kalasan, Yogyakarta, était dirigée par Bung Karno, le premier président de l'Indonésie. Bien que cette activité ne soit que symbolique, cette activité est très intéressante car il y a aussi une éducation qui est également donnée ou enseignée à la communauté. Ensuite, l'événement est devenu le précurseur de la naissance de la Journée nationale de la santé. Le 12 novembre 1945, Sudirman a été élu commandant en chef de l'armée de sécurité du peuple ou TKR. Premier et plus jeune commandant en chef de l'armée indonésienne par de la conférence TKR. Le général de l'armée nationale d'Indonésie ou TNI à titre posthume, Sudirman était un héros national indonésien qui a combattu pendant la révolution nationale indonésienne. Dans l'histoire de la lutte de la République d'Indonésie, il était le premier et le plus jeune commandant et général de l'Indonésie. À l'âge de 31 ans, Sudirman est devenu général. Après la constitution de l'armée de sécurité du peuple, ou TKR, après la proclamation, il a ensuite été nommé commandant de la division 5 Banyumas avec le grade de colonel. Et par la conférence de TKR le 12 novembre 1945, Sudirman a été élu commandant en chef de TKR et commandant des forces armées indonésiennes. Et ensuite, il a commencé à souffrir de tuberculose, bien qu'il ait continué à participer directement à plusieurs campagnes de guérilla contre les troupes de Nika néerlandaise. Malgré une tuberculose pulmonaire sévère, il est resté dans la guerre de défense pour l'indépendance de l'Indonésie. En 1950, il est décédé de tuberculose et enterré au cimetière des héros Kusuma Negara à Semaki, Yogyakarta. Le 12 novembre 1998, la tragédie de Semanggi. La tragédie Semanggi a donné lieu à deux incidents de protestation publique contre la mise en œuvre et l'ordre du jour de la séance extraordinaire qui ont entraîné la mort de civils. Le premier incident, connu sous le nom de tragédie Semanggi 1, s'est passé du 11 au 13 novembre 1998. À l'époque du gouvernement de transition indonésien, qui a entraîné la mort de 17 civils. Le deuxième incident, connu sous le nom de tragédie Semanggi 2, s'est passé le 24 septembre 1999. Il a tué un étudiant et 11 autres personnes à Jakarta et causé plus de 400 blessures parmi les différentes parties de la communauté. En novembre 1998, le gouvernement de la transition indonésien a tenu une séance extraordinaire afin de déterminer les prochaines élections et de discuter des ordres du jour du gouvernement. Les étudiants étaient de retour dans la tourmente parce qu'ils ne reconnaissaient pas le gouvernement B.J. Habibie et ne faisaient pas confiance aux membres du Parlement et de l'Assemblée consultative du peuple de nouvel ordre. Ils ont également demandé instamment de se débarrasser de l'armée, de la politique et de purger le gouvernement du peuple de nouvel ordre. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, voici donc mon Indonésie pour le titre. La Conférence mondiale sur l'économie créative 2008 produit le programme de Bali pour l'économie créative. L'Indonésie a accueilli pour la première fois la Conférence mondiale sur l'économie créative ou WCCE tenue à Nusa Dua, Bali du 6 au 9 novembre et a réuni 1500 participants de plus de 30 pays. La conférence de WCCE produit l'agenda de Bali pour l'économie créative qui sera présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année prochaine. L'un des points d'accord est d'élire des Émirats arabes unis en tant que lieu de la mise en œuvre de la prochaine conférence mondiale sur les changements climatiques en 2020. Triawan Munaf, directeur de l'Agence pour l'économie créative, a déclaré jeudi que le programme de Bali pour une économie créative était une inspiration et en reflète l'importance de l'économie créative pour l'économie mondiale. La collaboration est nécessaire pour soutenir le renforcement de l'écosystème de l'économie créative. Cette déclaration devrait renforcer plus la collaboration internationale. Cela reflète le ferme engagement de tous les participants à faire face aux défis et à tirer parti des possibilités économiques créatives. L'agenda de Bali contient des questions d'accès au capital, d'accès au marché, de développement de produits, de promotion, de développement d'infrastructures, etc. Selon Triawan Munaf, l'agenda de Bali est une étape clé dans le développement de l'économie créative. Cette déclaration est le résultat d'une réunion de délégation organisée lors de l'activité des Amis de l'économie créative qui s'est tenue le premier jour de WCCE 2018. Cet accord comprend 4 points principaux divisés en 21 points dérivés. Le premier point important est la collaboration et le comportement collectif des Amis de l'économie créative. Les pays participants ont convenu de créer un centre d'excellence pour la promotion de l'économie créative en Indonésie. Ce centre d'excellence sert de plateforme aux acteurs économiques créatifs du monde entier pour relier des idées, des ressources, des informations et des concepts commerciaux, notamment dans les applications musicales, culinaires et numériques. Le développement d'un écosystème économique créatif est un autre aspect. Célébration, promotion et autonomisation des objectifs de développement durable, OWD, le patrimoine culturel et la diversité. Le dernier point concerne la détermination de l'emplacement de la prochaine mise en œuvre de la WCCE. Lors de son discours à la Conférence mondiale sur l'économie créative à Nusa Dua, Bali, mercredi, Madame Khatoum Marsudi, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que l'Indonésie serait une capitale économique créative dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le riche patrimoine culturel indonésien a permis à l'Indonésie de développer des industries créatives, de la mode, de la cuisine, de l'artisanat et du divertissement. Cela est devenu un point d'ancrage pour l'économie indonésienne, ce qui lui permet de rester fort face à la crise économique. L'Indonésie a plus de modalités créatives de 700 groupes ethniques dans l'archipel. Ainsi, le ministre Khatno a estimé que la synergie entre les universitaires, les entreprises, la communauté, le gouvernement et les médias était nécessaire pour la concrétiser. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les culinaires et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons la plage de Nusantara à Riau. Restez à l'écoute avec nous, La Voix d'Indonésie, sur www.voinews.id. Lingga est l'une des régions de la province des îles Riau qui possède 531 grandes et petites îles. 447 îles sont inhabitées. Comme la province possédant de nombreuses îles, parce qu'il y a tant d'îles, la région de Lingga a beaucoup de potentiel de tourisme naturel. L'un d'entre eux est la plage de Nusantara dans le village de Tanjung Harapan, le district de Sinkep dans la région de Lingga à Riau. La plage de Nusantara a une ligne côtière qui a la forme d'un globe concave. La ligne de côte n'est pas assez large, seulement environ 2 hectares. La plage est soigneusement aménagée et protégée de sa propriété jusqu'à ce que la plage soit belle et intéressante. Cela devient également l'une des raisons pour lesquelles la plage n'est jamais dépourvue de visiteurs, que ce soit des touristes de l'intérieur et de l'étranger. Si vous allez à la plage, vous pouvez explorer le côté plat de la plage et sur place ont été construites des cabanes en bois. Serviteurs, la plage de Nusantara a du sable brun, des vagues calmes et de l'eau claire. Les visiteurs peuvent nager à la plage. En outre, il y a une petite île qui s'avance sur la mer, accessible uniquement en traversant un petit pont avec une clôture en bois. Sur l'île artificielle d'une largeur maximale de 20 mètres carrés, vous pouvez prendre un bain de soleil sur la chaise relaxante, manger au stand ou prendre une photo. Et si vous avez de la chance, vous verrez des cigognes blanches voler ou trouver de la nourriture au bord de la mer. Si vous avez un passe-temps de pêche, vous pouvez distribuer votre passe-temps ici. Serviteurs, c'est assez facile de se rendre à la plage de Nusantara, mais il n'y a pas encore le transport en commun pour vous emmener à ce site touristique. Vous devez louer la voiture et la moto. La plage est ouverte toute la journée. Beaucoup de touristes choisissent de venir à la plage le soir parce qu'à ce temps, il y a de très beaux paysages. C'est gratuit d'entrer dans la plage. Les facilités à la plage sont assez complètes. Serviteurs, c'était notre programme Magazine Culturel avec le titre La plage de Nusantara dans la province de Riau. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue, le ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Ucapan ulang tahun lewat pos L ou en langue française, Joyeux anniversaire par email. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Ucapan ulang tahun lewat pos L ou en langue française. Joyeux anniversaire par email. Chez Joko, on célèbre l'anniversaire de Tony. Ils ont bavardé.
Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.
Ya, Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir ucapan ulang tahun lewat pos L. Ucapan ulang tahun lewat pos L, en français, joyeux anniversaire par email. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Téléphone, téléphone, en français, appel téléphonique. Poste, poste, en français, poste. Poste L, en français, email. Lewat, lewat, en français, par. Via, via, en français, via. Melalui, melalui, en français, à travers. Menyampaikan selamat, félicité. Mengirim hadiah, en français, envoyer des cadeaux. Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L. Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L. En français, ma sœur a envoyé un message de joyeux anniversaire par email. Apakah kamu sudah membalasnya? Apakah kamu sudah membalasnya? En français, avez-vous répondu? Ya, sudah. Ya, sudah. En français, oui, déjà. Dans le dialogue, Tony Adi, kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L. Je répète, kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L. En français, ma sœur a envoyé un message de joyeux anniversaire par email. Ces expressions sont généralement utilisées lorsque quelqu'un fournit des informations sur un outil utilisé pour envoyer, transmettre ou donner quelque chose. Dans ces expressions, le mot habituellement utilisé est lewat. Lewat, en français, par. Le mot lewat dans cette expression est similaire avec via et melalui. Via et melalui. En français, à travers. Exemple. Dia menyatakan selamat lewat telepon. Dia menyatakan selamat lewat telepon. En français, il a dit des félicitations par téléphone. Dia menyampaikan selamat via telepon. Dia menyampaikan selamat via telepon. En français, il a félicité par téléphone. Dia menyampaikan selamat melalui telepon. Dia menyampaikan selamat melalui telepon. En français, il a félicité par téléphone. Kakakku mengirim hadiah lewat pos. Kakakku mengirim hadiah lewat pos. En français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Kakakku mengirim hadiah via pos. Kakakku mengirim hadiah via pos. En français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Kakakku mengirim hadiah melalui pos. Kakakku mengirim hadiah melalui pos. En français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.
Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine Musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter les chansons de Kroncong chantées par Gesang. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie que vous pouvez écouter par la diffusion en direct à www.voinews.id ou par l'application de RRI Play sur votre smartphone. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons maintenant une chanson de Kroncong intitulée Bengawan Solo.
Laut.
Voilà la chanson intitulée Bengawan Solo, chantée par Gesang. La chanson de Bengawan Solo a été créée par Gesang. Puis que cette chanson est également connue dans d'autres pays, l'un de eux, au Japon, cette chanson a été traduite en plusieurs langues étrangères, y compris l'anglais, le russe, le chinois et le japonais. Même, cette chanson est également utilisée dans l'un des films au Japon. Gesang Mahartanti, ou Gesang, il est né le 1er octobre 1917 à Surakarta, Java Central. La chanson de Bengawan Solo a été créée par Gesang en 1940, quand il avait 23 ans. Le jeune Gesang était assis sur le bord de rivière de Bengawan Solo, et son admiration pour la rivière est inspirante. Gesang avait besoin d'environ 6 mois pour compléter la chanson grâce à laquelle il a remporté le titre de maestro de keroncong d'Indonésie. Les auditeurs, la suite, je vous présente la chanson dont le titre est Kalung Mutiara.
Oh, my God. dia berjanji setia padaku. Namun akhirnya kini tinggalkan diriku, kalung mutiara yang ku terima di masa lalu.
Voilà la chanson intitulée Kalung Mutiara, une chanson originale de Kroncong qui raconte d'une histoire d'amour qui doit se terminer à cause de la distance qui les sépare. Une histoire d'amour qui est tissée entre deux personnes de différentes nations et maintenant il reste un collier de perles. L'amant doit retourner dans son pays et ne reviendra pas. Chers auditeurs, le maître de Kroncong d'Indonésie est maintenant mort. Gesang est décédé dans sa ville natale, la ville de Surakarta, au Java Central, le 20 mai 2010, à l'âge de 92 ans. Chers auditeurs, la suite, je vous donne une chanson intitulée « Suasana Desa » et « Sebelum Aku Mati » chantée par Gesang. Ces deux chansons ont également mis fin à notre rencontre cette fois-ci. Voici les deux chansons de Gesang. Bonne écoute, à bientôt.
Dari atas langit mereka memuji, karena itulah menjadi tanaman bersemi. Tak mengenal susah.
hujan yang turun dari atas langit. Mereka memuji karena itulah menjadi tanaman bersemi.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
But
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.